Ce dimanche, nous entrons dans le temps de l'Avent et nous sommes avec l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce temps de l'Avent dure 4 semaines.
Il dure 4 semaines chez nous. Mais par exemple, dans l'église de Milan, il dure 6 semaines. Vous savez que l'église de Milan a une liturgie particulière depuis, si j'ose dire, depuis toujours. Et donc, eux ont 32 semaines de temps ordinaire, et donc ils ont dû commencer le temps d'avant à la 33e. Voilà. Donc, voilà. Et dans l'Antiquité, il dure de 6 à 4 semaines.
Ce temps de l'Avent vient d'un mot latin.
Adventus, voilà. Adventus, c'est un mot du vocabulaire ordinaire, du vocabulaire politique, mais qui indique l'avènement, vous voyez, avant, avènement. L'avènement d'un prince, d'un empereur, d'un homme politique. Et donc, on va trouver dans certaines inscriptions, voilà, Adventus divi, donc l'avènement de l'empereur, ou Adventus consulis, enfin, celui du consul. Voilà.
Pour beaucoup de chrétiens, le temps de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent, c'est la mise en place de la crèche dans la maison, c'est la venue du Christ. Mais il y a aussi un autre aspect dans le temps de l'Avent.
Il y en a au moins deux autres. Il y a effectivement celui auquel on est le plus habitué, et en y regardant de près, c'est peut-être celui sur lequel la liturgie insiste davantage, bon, qui est la venue du Christ. Voilà, on va chanter « Venez divin Messie », par exemple, dans les paroisses, voilà, en français ou en basque
Pouvez-vous
d'ailleurs.
nous le chanter pour nous rappeler
Je ne
l'air?
suis pas musicien, moi. Donc voilà, bien. Moyennant quoi, effectivement, depuis quelques années, il y a les calendriers de l'Avent, où on offre une petite fenêtre, il y a tel ou tel événement, calendrier même sécularisé, bon, aujourd'hui, bon. Et ben voilà, la préparation de la crèche, bon, dont il faut quand même espérer qu'elle se fasse dans les jours, dans les semaines, proches de Noël, peut-être pas tout à fait au début de l'Avent. Bon, donc il y a bien sûr la venue du Christ dans notre chair, donc la naissance du Fils de Dieu à Noël. Il y a ce qu'on appelle la venue intermédiaire. Nous, on n'a pas pu assister à la naissance de Jésus à Bethléem. Par contre, la venue intermédiaire dont parle Saint Bernard et d'autres auteurs spirituels, autrement dit, le Christ qui vient dans notre cœur, dans notre âme, dans notre conscience, à travers la vie spirituelle, qui vient l'éclairer, la secouer, l'illuminer,
À
voilà,
travers l'Eucharistie.
à travers l'Eucharistie, à travers les sacrements, à travers la parole, mais aussi à travers, eh bien, voilà, un peu la vie ordinaire, la prière, ou parfois ces espèces de manifestations du Christ. Jusque-là, il se passe rien, puis tout d'un coup surgit un peu dans notre vie, la conscience de la présence et de l'action du Christ. Voilà, puis qui ensuite s'affaiblit, mais il y a eu cette expérience-là. Voilà, donc la venue intermédiaire, hein, que les spirituels appellent la venue intermédiaire. Bon, celle-là, bien sûr, nous est familière, si on peut dire. Et bien sûr, troisième aspect du temps de l'Avent, c'est la venue du Christ dans sa gloire à la fin des temps. Ça se passera, on y sera sûrement, mais pour le moment, donc, on n'en a pas
C'est la
l'expérience.
parousie.
Ce qu'on appelle la parousie.
Un mot peut-être sur cette notion de parousie.
Parousie, tous ces mots sont un peu équivalents. Avent, Épiphanie, parousie, bon, même si on les a spécialisés, si je puis dire, dans la liturgie. Voilà, la parousie, pour la foi chrétienne, c'est la venue du Christ en gloire, avec plusieurs aspects. Bon, d'une part, le jugement général de l'humanité, un jugement collectif. Je veux dire par là, voilà, Jésus portera un jugement sur les époques de l'humanité, sur sans quoi elles ont été fidèles et sans quoi elles ont été infidèles, et un jugement plus particulier sur chacun des hommes. Bon, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, ben, voilà, le second aspect, c'est la résurrection des hommes. Et le troisième aspect de la parousie, c'est le fait que la gloire du Christ, sa gloire de ressuscité, atteindra non seulement les hommes, hein, par la résurrection des corps, mais aussi l'univers entier, ce qu'on a célébré dimanche dernier, entre autres, dans la fête du Christ, roi de l'univers.
Le premier dimanche de l'Avent, on met l'accent sur la parousie, sur l'attente du Christ à la fin des temps. Veillez, soyez vigilants.
Effectivement, mais on l'a déjà fait. Quand vous regardez le dimanche précédent, qui en principe clôt l'année liturgique, mais la clôt-il vraiment, c'est pas sûr. Le Christ roi, déjà, on a mis l'aspect sur la parousie. Et si vous regardez les évangiles qu'on a lus, le 33e et 34e dimanche du temps ordinaire, des dimanches verts, la parabole des vierges sages et des vierges folles, c'est aussi orienté vers la venue du Christ. Bon, donc depuis les deux dernières semaines du temps ordinaire, la fête du Christ roi et le premier dimanche d'Avent, tout ça est dans une continuité. Mais effectivement, le premier dimanche de l'Avent va mettre l'accent sur cela. De même, les oraisons de la messe, pour les chrétiens qui vont à la messe en semaine, enfin du moins quand ils le pourront, maintenant on est dans un temps de confinement, ou qui assistent à une messe radiodiffusée ou télévisée d'un certain point de vue, ben voilà, les oraisons vont parler de ce Christ qui vient, du fait d'être prêt, du fait que nous soyons ardents à l'accueillir, etc.
Il y a des personnages de la Bible, des personnes de la Bible qui nous aident pendant ce temps de l'Avent. Je pense notamment au prophète Isaïe.
Alors, Isaïe nous aide, si on peut dire, en deux sens. D'une part, à travers les textes qu'on lit dans la liturgie de la semaine ou du dimanche. D'une part, bien sûr, c'est le chapitre 7 d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra, qu'elle mettra en monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, que Saint Matthieu reprend pour montrer sa réalisation dans la naissance de Jésus et dans la conception virginale de Marie de ce fait. Mais Isaïe nous aide aussi à travers d'autres textes où il nous montre la création et la société des hommes réconciliés. Par exemple, la guérison, voilà, des boiteux, des aveugles, etc. Ça se trouve déjà chez Isaïe. Et puis, voilà, le loup qui vivra avec l'agneau, le petit enfant avec le cobra, etc. Donc, il nous présente une société et un monde réconcilié. Isaïe, donc, est le prophète aussi du second avènement du Christ. Et donc, de ce rétablissement des choses.
L'autre personnage important pendant ce temps de l'Avent, c'est le cousin de Jésus.
Oui, c'est Jean-Baptiste. Et vous remarquerez qu'on entend, on voit et on entend Jean le Baptiste, alors qu'il est adulte, avant qu'on ne célèbre la naissance du Christ. Ça peut paraître un peu paradoxal. Mais bon, Jean le Baptiste, c'est une figure que j'aime beaucoup dans les films sur le Christ. Souvent, il est mieux présenté que Jésus, une espèce de grande gueule prophétique, mais enfin, bon, que j'aime beaucoup. Jean-Baptiste, c'est un peu la radicalité, c'est l'invitation à se préparer parce que le Seigneur va venir. Voilà, il faut goudronner les routes, si je puis dire, aplanir les routes pour que Dieu puisse venir dans les cœurs et dans les vies. Voilà, donc effectivement. Et puis, c'est aussi l'attente du Messie. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?
Il va aussi donner sa vie.
Oui, bien sûr. À cause de sa radicalité, parce que, selon la loi de Dieu, il dénonce un adultère royal. Donc, effectivement, c'est ce qui va susciter la haine de l'épouse et qui va donc amener à Jean à être martyr.
Et bien sûr, il y a Marie et Joseph.
Oui, il faut parler des deux. Il faut parler de Joseph parce que c'est en adoptant, pour ainsi dire, le Christ. Joseph est fils de David et en adoptant le Christ comme son fils, il fait entrer Jésus dans la famille de David et ainsi s'accomplit l'ancienne prophétie faite autrefois en 2 Samuel 7 à David. Bon voilà, qu'il y aura qu'il aura un descendant dont le règne n'aura pas de fin. Donc Joseph est important de ce point de vue, et est important aussi parce que, de fait, il a agi comme le père de Jésus. On parle de père nourricier, mais bon, c'est faible, de père plutôt de père adoptif. Et que, il a initié Jésus aux réalités de la vie des hommes, à la foi d'Israël, au travail, aux relations sociales. Bon, et que très sûrement, on a parlé de Joseph comme de l'ombre du Père du ciel, que Jésus a pu s'identifier à Joseph. Qui est aussi un grand saint. Et bien sûr, la Vierge Marie, c'est grâce à son fiat, grâce à son consentement que l'incarnation, la venue du Fils parmi les hommes a pu s'accomplir. Mais elle aussi, l'importance pour Jésus d'avoir une mère. Dans cette sainte famille, il y a tout. Il y a le couple, il y a le mariage, il y a la virginité. Il garde le célibat, il y a la vie de famille, il y a l'adoption, tout ça. Beaucoup de gens peuvent se retrouver dans la sainte famille qui est un peu à géométrie variable, si on peut dire.
Le temps de l'Avent, c'est un temps de pénitence, de conversion, puisque le prêtre revêt les ornements violets.
À l'église de Handaï, du temps où j'étais enfant et plus jeune qu'aujourd'hui, bien sûr, le prêtre revêtait des ornements violets au carême et durant un temps de l'Avent. Mais durant le temps de l'Avent, il revêtait un ornement violet plus, si j'ose dire, plus lumineux. Et au temps de carême, un violet plus austère. Donc, plus que le carême est un temps de pénitence, oui. Le temps de l'Avent est un temps, nous dit l'Église, de joyeuse préparation. Et donc, là aussi, si l'on a à refaire son vestiaire liturgique, choisir des couleurs qui marquent la différence.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beita, et nous vous retrouverons pour parler de la solennité que nous célébrerons pendant ce temps de l'Avent, le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Nous aurons l'occasion de parler plus abondamment donc de la place de la Vierge Marie dans le mystère de l'Incarnation. Merci à vous.
Au revoir.